Et là-dessus, on s'en va joindre Guillaume Caillard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, directeur général de Cinémania, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va. Vous avez survécu à cette édition toute spéciale de Cinémania?
Oui. C'était vraiment une magnifique édition. Je crois que ça nous a prouvé quelque chose d'important, c'est que dans un contexte où tout le monde se replie un peu sur lui-même en raison de la COVID,
ouais.
Les gens ont vraiment besoin de culture pour sentir qu'ils appartiennent à un ensemble, et en l'occurrence, là, c'est la francophonie. Donc ça a été une grande réussite.
Bien, je vous félicite, Guillaume, pour tout le travail abattu, ainsi que votre équipe et tous les films que vous nous avez fait. Que vous avez partagé avec nous parce que c'était un très bon choix. J'ai eu la chance d'en voir plusieurs et ça faisait tellement de bien là, de sortir. On était dans notre salon, mais on a voyagé à travers les films que vous nous avez présentés. Alors, l'année prochaine, je ne sais pas comment vous allez présenter Cinémania. Est-ce que vous allez conserver la formule en ligne?
Ben, je pense qu'il y a une conclusion importante, c'est que ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est rejoindre des gens qui étaient à l'extérieur de Montréal.
Oui.
Et ça, c'est magnifique, parce que des personnes qui se trouvent à cette île, à Rouen, à Baie-Comeau, Rimouski, ça c'est des exemples de clients qui nous ont appelés. Ben, avant, s'ils voulaient venir ou assister à Cinémania, il fallait qu'ils se déplacent jusqu'à Montréal. Et là, ben, ces personnes, on a montré qu'on pouvait aller vers eux. Et je crois que cette clientèle-là, cette nouvelle clientèle, ben, il faut la garder parce qu'il y a encore des coins un peu plus reculés au Québec où on ne peut pas voir le genre de film qu'on présente.
Ou quelquefois, on ne peut simplement pas se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais aussi c'est bien quand ces gens-là qui partent de régions dites éloignées viennent à Montréal parce que ça fait rouler toute une économie aussi.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais reste qu'il y a aussi des personnes plus âgées qui sont dans une solitude plus forcée, ben là, c'est une opportunité pour eux d'aller de leur offrir quelque chose de différent.
Oui. Alors, vous faites plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis certaine que vous allez faire plaisir à bien des gens. Vous avez choisi de nous parler du, je ne sais pas si c'est un genre, fantasy. Et en français, oui. C'est fantasy également, mais au lieu de l'écrire avec un Y à la fin, c'est IE. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ben alors, on connaît tous Le Seigneur des Anneaux, les écrits de Tolkien,
oui.
Qui ont été adaptés au cinéma par Peter Jackson. Donc il y a la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Puis quelques années plus tard, on a retrouvé Peter Jackson qui a mis en scène The Hobbit. Donc qui est vraiment là aussi une espèce de prequel. Donc ça se passe avant. La trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais tout ça, je pense qu'au cinéma, et c'est aussi parce qu'on s'approche de la période de Noël, prend son origine au cinéma en Allemagne, au début des années 1980, avec un récit important qui s'appelle « Die Ungleichische », c'est l'histoire sans fin de Michael Ende. Alors le fantasy, c'est l'idée de créer comme une espèce de monde parallèle au monde réel dans lequel vivent toutes sortes de personnages fantastiques.
On n'est pas nécessairement dans l'horreur, Guillaume.
Ah non, on n'est pas du tout dans l'horreur.
Okay.
Disons que c'est une sous-branche du genre fantastique.
Ouais.
C'est du fantasy, du héroïque fantasy, en fait. Ça vient surtout de la littérature notamment américaine, des récits, mais aussi anglais, Tolkien en est un bon représentant, où on imagine des quêtes héroïques dans lesquelles un personnage parcourt un monde imaginaire peuplé de toutes sortes de créatures qui sont des dérivés des animaux ou des choses qu'on connaît dans le monde réel. Mais, par exemple, il peut y avoir des centaures, des licornes, etc., etc. Puis on retrouve beaucoup ça dans la littérature anglaise du XVIIe et du XVIIIe siècle, et aussi dans la littérature américaine du début du XXe siècle. Et par conséquent, ça a été rapidement dans les années, particulièrement dans les années 70-80, pris par le cinéma hollywoodien qui a commencé à faire des adaptations de ces récits.
Oh.
C'est ça, le heroic fantasy.
OK. Est-ce qu'il y a un film emblématique? Vous avez parlé du Seigneur des Anneaux, L'Histoire sans fin. Ça, c'est un film de 1984.
C'est ça. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est le plus parfait exemple parce que le heroic fantasy, au départ, il a été... disons qu'il a été décliné au cinéma dans l'idée de faire un genre pour les enfants. Au début, je ne sais pas si Le Seigneur des Anneaux, on peut considérer que c'est vraiment pour les jeunes enfants, mais L'Histoire sans fin, ça a commencé là. Donc, on a ce récit qui est quand même assez volumineux de Michael Ende, qui a été adapté au cinéma par ce réalisateur d'origine allemande, Wolfgang Petersen, qui en a fait un récit de 1h30, qui est devenu excessivement populaire, parce que finalement, il surfait sur le succès du récit de Michael Ende, le livre qui s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires à travers le monde. Et c'est pour ça qu'Hollywood a voulu en faire une adaptation qui a été coproduite entre l'Allemagne et les États-Unis. Et à partir de là, ça s'est très popularisé. Vraiment, il y a eu beaucoup de films dans les années 80, dans les années 90, qui ont découlé de L'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin a même d'ailleurs donné naissance à des suites. L'Histoire sans fin 2, L'Histoire sans fin 3, puis il y a même eu une série télévisée qui a d'ailleurs été tournée à Montréal. Ça s'appelle Les Contes de l'Histoire sans fin, tournée à Montréal dans les studios Melz.
Ah oui, en quelle année ça?
Au début des années 2000, la série n'est pas d'une qualité extraordinaire. Malheureusement, ces suites, au fur et à mesure qu'il y a eu des suites, ça a perdu en qualité.
Ouais.
Mais ça a ouvert la porte à des nouveaux récits d'héroïque fantasy, comme on connaît avec Le Seigneur des Anneaux, où là, c'est des moyens beaucoup plus considérables, des effets spéciaux qui nous en mettent plein la vue. Mais il faut voir que tout ça prend un peu son origine dans L'Histoire sans fin. Puis L'Histoire sans fin, c'est quoi ? C'est la mise en parallèle de deux mondes, le monde réel, dans lequel un petit garçon vole un livre dans une librairie qui s'appelle L'Histoire sans fin, et il découvre le récit d'Atreyu, un jeune guerrier qui parcourt le monde fantastique de Fantasia, qui est en perdition. En perdition parce que dans le monde réel, les gens commence à manquer d'imagination et commence à perdre le goût pour raconter des histoires, pour créer des univers parallèles. Et donc, le monde fantastique, imaginaire de Fantasia est en train de se détruire petit à petit parce qu'il se fait, attaquer par un mal qui s'appelle le néant. Et le néant, en fait, c'est une métaphore de la perte d'imagination. Donc, en gros, ce que la morale de toute cette histoire, c'est il faut continuer à garder des histoires, il faut continuer à se raconter des histoires, il faut entretenir le goût pour l'imagination, le goût pour le fantastique.
D'où le titre L'Histoire sans fin.
Tout à fait. Et... parce que l'imagination humaine, elle est sans fin.
Oui, ah oui, heureusement. Legend, c'était une autre de vos suggestions, Guillaume.
Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est Ridley Scott qui, au même moment, réalise, je pense que c'est son quatrième film. D'ailleurs, la première grande apparition au cinéma de Tom Cruise, qui est très jeune, je crois qu'il a à peine 20 ans dans ce film-là.
Ah, oui.
Et Legend, c'est pareil. Un monde fantastique, peuplé de licornes, justement, une force maléfique s'empare de la licorne, veut la tuer, et vous avez ce jeune et faible comme ça qui parcourt cet univers pour sauver la licorne. Il y a des diables, il y a des sorcières.
Ah, il y a quand même on parlait d'horreur tantôt, mais il y a quand même des choses effrayantes qui font peur.
Bah, oui, mais
on sait qu'on est dans un monde parallèle.
Voilà, mais ça reste, je veux dire, on parle pas de films violents.
Ouais.
Vous avez une autre tranche de la heroic fantasy qui sont des films un peu plus violents. Et ça, c'est intéressant, c'est que vous avez, entre guillemets, deux sous-branches, on va dire même trois sous-branches dans la heroic fantasy. Les films vraiment pour enfants comme Légende, L'Histoire sans fin, Dark Crystal, le cristal noir, mm-hmm. qui est aussi un film comme ça dans les années 80, où vous avez notamment Jim Henson, le créateur oui. de marionnettes, qui crée ces espèces de petites créatures fantastiques. Il y a des fées. Tout ça est quand même très bon enfant.
Ça pourrait passer à Ciné-Cadeau facilement, là.
Ah, mais ça passe à Ciné-Cadeau complètement, d'ailleurs. Je pense que chaque année, il y en a un. Hein, vous avez Lucky Luke, Astérix, et après, vous avez un film de Heroic Fantasy. Comme ça, tout est mignon. Ensuite, vous avez une deuxième branche qui est, par contre, un peu plus violente, beaucoup plus violente, qui est plus pour adultes. Et ce sont les premiers films de Arnold Schwarzenegger. Conan le Barbare, Conan le Destructeur, tout ça, c'est des films qui correspondent à la Heroic Fantasy, où là, quand même, c'est beaucoup plus violent, puis ce sont des récits guerriers qui se passent dans un monde où il y a des dragons, où il y a des personnages très mal intentionnés, il y a des scènes assez violentes. Donc ça, c'est la deuxième branche. Mm-hmm. Et puis la troisième branche, c'est une branche plus moderne, qui rallie un peu ces deux premières branches, et qui correspond au Seigneur des Anneaux. C'est la branche contemporaine du heroic fantasy au cinéma.
Film pour toute la famille, Le Seigneur des Anneaux?
Je pense que oui, mais ça reste quand même assez violent. Si vous avez un enfant de 6 ans, c'est peut-être pas idéal de lui montrer Le Seigneur des Anneaux. Il y a quand même pas mal de scènes de violence.
Oui, alors pour cet enfant de 7-8 ans, on commence avec autre chose, comme Legend ou L'Histoire sans fin, comme vous nous l'avez dit.
Mais moi, ce que j'aime dans Legend et dans L'Histoire sans fin, c'est le côté artisanal. Par artisanal, je veux pas dire... que c'est des films low budget, là, à bas budget. Bien au contraire, à l'époque, c'était des énormes productions. L'Histoire sans fin a été tournée dans des grands studios à Munich. Vous savez, c'est ce dragon volant. Vous avez le petit personnage Atreyu et Bastien, qui à un moment donné, celui qui vient du monde humain, finit par tomber dans le monde imaginaire. Il se retrouve propulsé, puis là, il parcourt des montagnes et à dos de dragons volants. Eh ben, ce dragon volant, c'est une immense marionnette gigantesque qu'on peut encore visiter aujourd'hui dans les studios de Munich en Allemagne.
Ah, wow! Ben, Guillaume, on va surveiller la programmation. Vous dites que ça passe à chaque année à Ciné-Cadeau. Il y a des images qui me reviennent, mais on va se laisser avec une musique qui est tirée de la bande originale du film Histoire sans fin. Merci pour votre chronique d'aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. On aurait parlé encore longtemps, mais il n'en reste plus de temps.
Avec plaisir. À bientôt, Hélène.